Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Voici votre journal d'information. On commence tout de suite avec le grand titre de ce jeudi. La RDC renforce son rôle diplomatique dans la région. Le président Tshisekedi a participé au sommet virtuel EAC-SADC depuis Kinshasa, réaffirmant l'engagement du pays pour la paix et le développement en Afrique orientale et australe. Examen d'État 2025. Les résultats tombent progressivement. Le ministère de l'Éducation publie les résultats des provinces Kinshasa, Tchangou, Kwilu 2 et 3, Chwapa 1 et Tchopo 1 via son compte X. Invité du journal, Glody Besanzami, défenseur des langues africaines, linguiste et ingénieur pédagogique. Il y milite pour la valorisation du Lingala et projette la création d'un institut panafricain dédié à la culture et aux traditions africaines. À la une, la RDC veut rester un acteur clé dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique orientale et australe. C'est dans cet esprit que le président Tshisekedi a pris part ce mercredi depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa au sommet virtuel conjoint entre la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et la Communauté de développement d'Afrique australe SADC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Pour Félix Tshisekedi, cette participation s'inscrit dans la volonté de renforcer les liens diplomatiques et économiques de la RDC avec ses voisins, indique les comptes X de la présidence de la République. Aux côtés de nombreux dirigeants africains, il a échangé sur des questions stratégiques de coopération régionale. Ces assises, organisées à la suite du sommet du 1er août courant, ont permis d'examiner les termes de référence du groupe des 5 facilitateurs désignés par l'EAC et la SADC. À cette occasion, l'ancien président du Botswana, Eric Mokwechi, a été coopté pour compléter les quintés gagnants de cette plateforme de facilitateurs. Outre le président de la RDC, les chefs d'État de Zambie, du Rwanda, du Zimbabwe et du Kenya ont participé en présentiel, tandis que l'Ouganda et le Burundi étaient représentés par leur vice-président. Lors de cette rencontre virtuelle, l'Angola, la Somalie et Madagascar étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères.
Nord Kivu, nouvelle attaque meurtrière des ADF, 3 civils tués, des maisons incendiées et plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire de cette attaque de rebelles dans la nuit de mercredi à jeudi à Maïmo et à localité située à une quarantaine de kilomètres au nord de Beni. Face à cette recrudescence de violence, la société civile appelle les forces conjointes FARDC-UPDF à renforcer la sécurité dans cette zone stratégique considérée comme le couloir des passages des rebelles entre l'Est et l'Ouest de la route nationale numéro 4. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette attaque survient seulement 3 jours après celle de la localité de Lesse sur l'axe Eringeti-Kainama dans la même région. La société civile de Maïmoya indique que le bilan provisoire fait état de 3 civils tués, des maisons incendiées dans le quartier de Kitanga à l'ouest de la localité et d'une dizaine de personnes toujours portées disparues. Patrick Moussoumoua, président de la société civile locale, s'inquiète de la non-prise en compte des alertes émises depuis lundi dernier sur les mouvements des rebelles entre Kokola et Maïmoya. Il demande le lancement des opérations militaires de grande envergure dans cette zone où les ADFC circule régulièrement de l'est à l'ouest de la route nationale numéro 4. Ce jeudi matin, la circulation est interrompue sur l'axe Oicha Kokola Maimoya et Ringeti, alors que les forces conjointes FARDC-UPDF poursuivent les assaillants qui se sont dirigés vers la forêt à l'ouest de Maimoya. Sur place, un mouvement de population est signalé vers Ringeti, localité voisine située à environ 10 km, précise la société civile. Les porte-parole des opérations Sokola 1 des FARDC confirment ces informations sans fournir davantage de détails. Cette attaque porte à 7 le nombre de civils tués et à plusieurs dizaines celui des disparus dans la région depuis le début de la semaine. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Restons dans la région pour parler de la situation sanitaire préoccupante dans la zone de santé de Mouesso. Le choléra frappe les déplacés. Au moins 2 déplacés ont perdu la vie selon de notables locaux. Ce dernier tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie extrêmement précaires des milliers de déplacés récemment arrivés de la chefferie de Buito dans le Rutshuru et du nord nord-est du Wali Kale fuyant les violences armées. Les structures sanitaires locales, déjà débordées, peinent à contenir la propagation de la maladie. Lievin Bwinga nous en dit plus.
Les deux déplacés morts de cette maladie sont originaires des campements basés dans le jardin Teikole de Ngeri, en groupement de Kiondo, territoire de Rutshuru. Leur décès est intervenu mardi à l'hôpital général de référence de Mweso, indiquent certains défenseurs locaux des droits humains joints dans la région. Pour ces sources, les déplacés fuyant des récentes hostilités opposant la coalition AFC M23 aux combattants Wazalendo dans certaines localités du territoire de Masisi, de Rutshuru et de Wali Kale affluent de plus en plus dans la localité de Mweso. Nombreux sont concernés dans le village Miti et au centre de Mweso où ils sont logés dans les écoles, églises et certaines familles d'accueil. Leurs conditions dans ces sites spontanés est très précaire car pas d'assistance en termes d'eau, hygiène et assainissement, ce qui risque de propager l'épidémie de choléra dans cette zone, indiquent nos sources. La division provinciale de la santé indique que l'épidémie de choléra est déjà déclarée depuis quelques semaines dans plusieurs zones de santé du Nord Kivu par le ministère national de la santé, d'où le pressant plaidoyer des leaders locaux en faveur d'une assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces déplacés.
Situation sanitaire également au Sud Kivu. Entre mai et juillet, Médecins sans frontières MSF a porté secours à près de 2500 personnes dans le territoire de Calais, dans un contexte humanitaire jugé alarmant. Selon un rapport d'évaluation publié à l'issue de cette mission de 2 mois, la situation sur le terrain reste extrêmement préoccupante. Sur le 24 structures sanitaires visitées, 15 ont fermé, 10 ont subi d'importants dégâts et une quinzaine ont été pillées. Un tableau sombre dans une région meurtrie par des décennies de conflits armés. Le point avec Ronéline Timbonera.
C'est une intervention d'envergure humanitaire menée dans un contexte de tension où MSF a dû voler au secours des 2480 personnes pour leur prodiguer des soins vitaux. Dans un contexte marqué par un système de santé au bord de la faillite, MSF, entre mai et juillet 2025, a fourni des dons de matériels médicaux qui ont permis de soutenir les structures locales et de répondre aux besoins urgents des communautés, précise le rapport. Parmi les structures ayant bénéficié de cet appui, l'organisation cite les hôpitaux généraux de référence des Katana et Kalehe, ainsi que les centres de santé des Katana, Nourou, Mabingu, Luchébéré, Kalehe et Luzira. L'intervention de MSF s'est focalisée sur la prise en charge pédiatrique des enfants de moins de 5 ans, les traitements de la malnutrition, les soins gynéco-obstétricaux présentant des complications et les soutiens aux victimes des violences, indiquent les documents. Malgré ces efforts, l'insécurité persistante dans certaines zones où les besoins sont pourtant criants constitue un frein majeur aux activités humanitaires, reconnaît Muriel Boursier, chef de programme MSF à Bukavu. Il existe encore des zones où nous ne pouvons pas intervenir alors que les besoins restent immenses. Il est essentiel que tous les acteurs garantissent un passage sécurisé pour l'aide humanitaire et qu'un approvisionnement régulier en médicaments et aliments thérapeutiques soit assuré par le ministère de la Santé et ses partenaires. Trop de centres de santé sont aujourd'hui gravement sous-approvisionnés, a-t-elle ajouté.
Pour boucler ce chapitre, en Ituri, dans la zone de santé de Mangala, territoire de Djougou, près de 300 personnes atteintes de tuberculose ou vivant avec le VIH-SIDA sont privées de soins en cause des opérations militaires menées depuis 2 semaines sur l'axe Nizimabanga par les FARDC contre des éléments du groupe armé Zaïre allié aux rebelles de la Convention pour la Révolution populaire. Une situation préoccupante dans une région déjà fragilisée par l'insécurité. Un reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Ce blocage empêche l'acheminement de médicaments pour plus de 80 000 habitants. Le médecin chef des zones de santé de Mangala, le docteur Jacques Savo, alerte sur une rupture totale des stocks, y compris pour le traitement du paludisme. Conséquence, l'hôpital général des références de Mangala et les 6 aires de santé ne peuvent plus prendre en charge leurs patients, contraignant certains tuberculeux et séropositifs à interrompre leur traitement avec des risques graves pour leur santé.
Exactement, nous avons de grandes difficultés parce que la route est bloquée jusqu'à ce jour. Il y a aussi un déplacement de la population. D'ici là, on aura des problèmes de nutrition. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il y aura un taux élevé de décès parce que les gens n'accèdent pas aux soins. Et tous les autres médicaments contre le palu, le VIH, mais aussi les autres médicaments tels que les amoxis, les ampicillines, les gentamicines, tout ça, ne peuvent pas arriver dans la zone maintenant parce que la zone n'y a pas accès, ce qui va encore atteindre un décès élevé dans la communauté.
La pénurie touche également les structures médicales privées qui peinent à renouveler leur stock, une situation qui pourrait pousser certains malades à se tourner vers les charlatans ou vers les pratiques traditionnelles à risque. Les autorités sanitaires plaident pour l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire afin d'acheminer les médicaments. Pas de réaction pour l'instant de l'armée. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté poursuit la publication de résultats de l'examen d'État session 2025. Ce mercredi, via son compte X, ex-Twitter, il a rendu public les résultats des lauréats des provinces éducationnelles Kinshasa, Tiangou, Kwilu 2, Kwilu 3, Tchouapa 1 et Tchopo 1. Alain Irung nous présente quelques chiffres clés.
Kinshasa Tiangou, latin philosophie, collège Sainte-Famille, le lauréat à 86%. Kinshasa Tiangou, latin philosophie, institut Vedruna, le lauréat à 86%. Kinshasa Tiangou, science, collège Sainte-Famille, le lauréat à 90%. Kwilu 2, latin philosophie, institut Kinyati, le lauréat à 74%. Kwilu 2, science, lycée Siama, la lauréate à 79%. Kwilu 2, pédagogie générale, institut Bonga, le lauréat à 80%. Kwilu 3, latin philosophie, institut Lankwan, le lauréat à 76%. Kwilu 3, pédagogie générale, institut Mundala, la lauréate à 75%. Tchouapa 1, pédagogie générale, institut Lomana, le lauréat à 82%. Tchouapa 2, science, institut Salongo, le lauréat à 71%. Tchopo 1, latin philosophie, Hope International School, la lauréate à 81%. Tchopo 2, science, Hope International School, la lauréate à 86%. Tchopo 1, pédagogie générale, institut de Mangobo, le lauréat à 82%. Tchopo 1, construction, Iti Chololo, le lauréat à 73%.
Tous les résultats sont disponibles sur le site officiel www.radiookapi.net. Au Maniema, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes monte au créneau lors d'une matinée syndicale tenue ce mardi. Ses membres ont réclamé un local pour abriter leur mutuelle de santé, une structure pourtant alimentée par leurs cotisations depuis plus de 8 mois. Selon Rizos Riziki Wilonja, président provincial du syndicat, les enseignants contribuent régulièrement mais ne voient aucun résultat concret. Une situation qui suscite frustration et inquiétude à l'approche de la rentrée scolaire. Le syndicat interpelle les autorités compétentes afin d'éviter que cette impasse ne perturbe le bon déroulement de la reprise des cours. Écoutons Rizos Riziki Wilonja au micro de Florence Kizalunga.
Pour ce qui est de la SENSAP, nous avons recommandé l'installation de ce bureau dans la province du Maniema, car l'enseignant du Maniema avait déjà contribué pour 2 ans, et chaque enseignant contribue 10 000 francs par mois. Le SINEP recommande au gouvernement provincial du Maniema de disponibiliser un local pour pouvoir abriter les bureaux de la mutuelle de santé des enseignants du Maniema, MSP en sigle, car le Maniema 1, lui seul compte 11 522 enseignants, et chaque enseignant contribue 5 000 francs, et cela, il y a de cela 8 mois que l'enseignant du Maniema est en train de contribuer. Nous avons eu le temps aussi d'insister au gouvernement de revoir à la hausse les frais de fonctionnement alloués au bureau gestionnaire conventionné. Le SINEP Maniema recommande la tenue des assises de négociations bas syndicales et bas gouvernementales avant la rentrée scolaire 2025-2026, la construction de la bibliothèque moderne dans la ville de Kindo, la mécanisation des nouvelles unités et la prise en charge des NP avant la rentrée scolaire. Sans cela, l'enseignant du Maniema se réserve le droit de boycotter la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon.
Bazouélé, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée hier au stade Mouziga Tebe de Bouta, le conseil provincial de la jeunesse du Bazouélé a lancé un appel fort aux jeunes s'engager pour la paix à travers l'éducation, le travail et le changement de mentalité. En phase avec le thème de cette année, transformer l'éducation pour un avenir durable, Roger Ndango, président du conseil provincial de la jeunesse, a exhorté les jeunes à devenir des acteurs du développement dans leur communauté. Écoutons Roger Ndango dans cet extrait recueilli par Jacques Moukonkole.
Nous rappelons qu'aucune transformation n'est possible sans la connaissance, la discipline et le courage. Nous devons investir dans notre intelligence, dans notre savoir-faire et dans notre esprit d'initiative pour notre autonomisation des jeunes, pour booster le développement intégral de notre chère province. Jeunesse bazoulienne, relevons les défis de bâtir un Bazoulé fort et prospère. Évitons la haine, le tribalisme, la manipulation et la violence. Restons unis, car notre plus grande richesse est notre diversité et notre solidarité. Les valeurs patriotiques que nous défendons n'est pas un simple soldat, c'est un engagement quotidien à défendre nos valeurs, protéger nos sources et contribuer au développement de notre province. Chers jeunes, c'est lever chaque matin avec conviction que nous pouvons changer notre destin par le travail, l'intégrité et la persévérance. J'appelle donc chaque jeune à devenir un acteur de la paix, ambassadeur de l'unité et artisan du progrès.
Actualité internationale.
Le projet de loi sur la déclaration des patrimoines attendu devant l'Assemblée nationale le 18 août 2025 suscite une vive controverse au Sénégal, alors que le texte élargit les obligations à des nouveaux profils magistrats, juges d'instruction, autorités locales, auditeurs et dirigeants des sociétés publiques. Il réduit également le seuil des déclarations de 1 milliard à 500 millions de francs CFA environ, 760 000 euros. La loi de 2014 ne concerne jusque-là que le haut responsable comme les ministres ou les comptables publics gérant des grands budgets. Mais pour Doudou Wad du Parti Démocratie Sénégalais, il y voit une faille majeure dans la transparence. Le président s'est exclu de la liste des assujettis. Or, la transparence exige une déclaration au début et à la fin du mandat. Face aux critiques, Amadou Ba, vice-président du groupe parlementaire des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, défend le projet. Il rappelle que la Constitution impose uniquement une déclaration au début du mandat publiée par le Conseil constitutionnel et que toute modification nécessiterait une révision constitutionnelle.
L'invité.
Linguiste et ingénieur pédagogique, Glody Besanzami enseigne le lingala et le français à l'Institut français de Kinshasa. En 2022, il a lancé Mbote Lingala, une plateforme dédiée à la valorisation des langues africaines avec un accent particulier sur les quatre langues nationales de la RDC. Dans sa démarche de démocratisation linguistique, il met à la disposition du public congolais des manuels scolaires en lingala ainsi qu'un dictionnaire. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Il projette de créer l'Institut panafricain Lumumba Sankara, un espace dédié à la promotion de la culture, de l'histoire et de traditions africaines avec une forte composante linguistique. Glody Besanzami est au micro de Kaki Akewa. Suivez leur entretien.
Glody Besanzami, bonjour.
Bonjour.
J'ai vu Mbote, qui est un manuel scolaire destiné aux personnes de niveau A1 et un autre manuel pour les personnes de niveau A1+. Comment tu expliques ça toi-même?
Déjà, il faut revenir à l'origine de ces manuels que j'ai conçus. C'est Mbote Lingala. C'est une plateforme que j'ai fondée en 2021 qui a pour but de promouvoir les langues nationales congolaises en commençant par le Lingala. Et dans ce projet-là, j'ai déjà publié deux manuels et il y en a d'autres qui sont en cours de conception. Donc il y a Mbote Lingala A1 et Mbote Lingala A1+ qui sont déjà disponibles. Ce sont des manuels qui sont destinés aux débutants en Lingala.
Il y a également un dictionnaire.
Évidemment, il y a également un dictionnaire bilingue, Lingala français, français Lingala. Un dictionnaire avec plus de 1500 mots et 50 verbes conjugués, les verbes les plus courants.
Glody Besanzami, ton idée est de réaliser ces manuels pour les quatre langues nationales de la République démocratique du Congo. Comment tu feras?
Oui, justement, c'est un travail qui est déjà en cours. L'idée, c'est de promouvoir, dans un premier temps, les langues nationales congolaises, parce qu'on ne peut pas travailler sur toutes les langues en même temps. Et donc, j'ai commencé avec le Lingala. Maintenant, je vais faire ce même travail que je fais avec le Lingala sur les autres langues nationales congolaises, le Tshiluba, les Kikongo et les Swahili, dans le but de promouvoir nos langues congolaises, les langues africaines de manière générale, parce que quand vous regardez le paysage linguistique mondial, vous voyez que les langues africaines n'ont pas de place dans ce marché linguistique mondial. Et mon travail à moi, en tant que linguiste et ingénieur pédagogique, ma contribution à moi, c'est de concevoir des documents pédagogiques de référence dans le but de promouvoir nos langues et de faire en sorte que nos langues deviennent compétitives sur le marché linguistique mondial. Parce que sans documents pédagogiques de référence, on ne peut pas enseigner et apprendre nos langues comme il se doit.
Et les chansons congolaises font aussi le même travail.
Évidemment, la rumba congolaise, c'est un vecteur de la promotion du Lingala. Et j'ai déjà écrit un article d'ailleurs à propos de ça, Kinshasa pour montrer l'apport vraiment énorme, remarquable de la rumba congolaise dans la promotion du Lingala. Je crois que le combat doit être mené sur tous les fronts, y compris sur le front musical, y compris sur le front technique. Parce que moi, je suis un technicien, je suis un linguiste, je suis un ingénieur pédagogique, donc je peux apporter cette valeur-là, ces documents de référence qui vont servir de référence à travers le monde.
Glody Bessanzami, est-ce que tu collabores aussi avec d'autres personnes qui parlent d'autres langues de la République démocratique du Congo? Parce que les Lingala, je parie très fort que tu ne parles pas toutes les langues.
Non.
Alors comment tu feras pour mettre ces manuels dans d'autres langues de la République démocratique du Congo, notamment les Chiluba, les Kikongo et les Swahili?
Je travaille déjà avec des collègues qui ont rejoint ma plateforme, qui eux travaillent sur les différentes langues, donc les Chiluba, les Kikongo et les Swahili. Ce travail là est en cours et peut-être dans 2 ou 3 mois ces livres seront disponibles.
Tu es financé par quel organisme?
Jusqu'à présent, je travaille sur fonds propres. C'est dur, c'est difficile, mais je pense que c'est un début. Pour ce début-là, il fallait mettre les moyens personnellement, et j'espère vraiment dans un avenir proche, obtenir des financements panafricains, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que le but de cette démarche, c'est de faire les choses par nous-mêmes.
C'est un sacrifice, comme on dirait. Ces manuels sont vendus où déjà, Glody Bessanzami?
Ces manuels sont commercialisés par mon bureau. Vous pouvez également le trouver en ligne sur Internet en tapant Beauté Lingala. Vous pouvez trouver toute la collection des manuels disponibles.
Tu enseignes également à l'Institut français Al de la Gombe. Quels sont les cours que tu dispenses là-bas?
Alors là-bas, j'enseigne le Lingala principalement.
Tu enseignes le Lingala aux Français et aux autres nationalités ou aux Congolais?
Alors le Lingala que j'enseigne, c'est pratiquement destiné aux expats qui vivent à Kinshasa, qui veulent apprendre le Lingala. Dans un avenir proche, nous prévoyons de lancer ce que nous appelons l'Institut panafricain Lumumba Sankara. C'est un projet qui souhaite faire la promotion de la culture, de l'histoire, des traditions africaines de manière générale. Et dans ces projets-là, on retrouve également la branche linguistique pour faire la promotion des langues africaines de façon plus globale. Parce que ce que moi je fais actuellement avec Mbote Lingala, c'est un peu restreint. L'idée, c'est de promouvoir les langues africaines, de promouvoir la culture africaine, de promouvoir les traditions africaines afin de lutter contre la colonisation culturelle et linguistique que nous subissons chaque jour.
Merci beaucoup, Glody.
C'était Glody Bessanzami, linguiste et ingénieur pédagogique engagé dans la promotion des langues africaines et de la culture africaine. Il s'exprimait au micro de Kaki Akiewa. C'est la fin de cette édition du journal présentée par Gisèle Cage, mise en onde Billy Landry Betou, coordination éditoriale Lievin Mbwinga, supervision Alain Rong. Nous vous remercions sincèrement pour votre écoute et votre fidélité. Pour des informations plus détaillées, n'hésitez pas à consulter notre site web www.radiokapi.net. Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver très bientôt en pleine forme et en bonne santé. Au revoir.